Étude sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus. Te connais. Il n'y a rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur.
Bonjour, bien-aimés en Christ. Je rends grâce à Dieu qui, depuis notre dernière rencontre jusqu'à ce jour, nous a gardés en vie, préservés de toute chute et nous a délivrés du ou des filets que l'ennemi de notre âme nous a tendus à chacun au cours de la semaine écoulée. Encore une fois, je suis ravi de vous retrouver en live avec l'autre Laurent dans ce nouveau numéro d'études sur Cantique saison 2022-2023. Le chant qui sera commenté dans l'émission de ce jour à l'allure de louange. Ses paroles sont simples, puisées dans les saintes écritures et elles glorifient en tout point le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ est le titre de la chanson et elle est l'œuvre du groupe musical de CMCI que je vous laisse à présent écouter.
Oh,
Au nom de Jésus est constitué d'un refrain et de trois couplets. Oui, nous sommes avec l'autre Laurent. L'autre Laurent, bonsoir, bien-aimé.
Oui, bonsoir Olivier.
Nous allons entamer l'étude sur Cantique là, de ce jour. Mais bien avant cela, il nous faut découvrir les paroles de la chanson. Je l'ai dit tantôt, c'est un refrain et trois couplets. Alors, quelles sont les paroles de la chanson?
Alors, comme annoncé, je vais commencer avec le refrain. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Premier couplet, Jésus, c'est Dieu le Fils, mais il s'est dépouillé en devenant esclave. Dieu est devenu homme, Jésus s'est humilié, en tout point il a obéi, jusqu'à subir la mort, oui, la mort de la croix. Le deuxième couplet, c'est pourquoi Dieu, le Père, l'a aussi élevé à la plus haute place et lui a donné le nom au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre. Troisième couplet, au nom de Jésus-Christ, nous brisons les frontières. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons les barrières. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons toute pensée. Au nom de Jésus-Christ, apportons le salut.
Très bien. Dans une de nos émissions, l'autre Laurent, nous avons eu à parler du groupe Musica CMCI, si je me rappelle très bien. Et toutefois, pour nos auditeurs qui ne nous avaient pas suivis à l'époque, est-ce qu'il serait pas bon de rappeler brièvement quelques informations qu'on aurait sur ce groupe musical CMCI?
Bien, c'est vrai que nous avions, il y a cela quelques années, ouais, étudié un certain nombre de cantiques de ce groupe. Alors, le groupe musical de la CMCI, la CMCI entendue par là, la communauté missionnaire chrétienne internationale. D'accord? Et le groupe musical étant issu de l'Église, je vais parler de fondateurs pour nous situer. La CMCI a été fondée par Zacharia Tane Fomom, qui est un professeur. Alors, il est né le 20 juin 1945 et a connu le Seigneur le 13 juin 1956, wow, à peu près à l'âge de 11 ans.
Ah, ok. Il est très jeune, hein?
Oui, bien sûr.
Très jeune.
Oh là. Et le 1er octobre 1966, c'est-à-dire 10 ans après, il s'est consacré entièrement, corps, âme et esprit, au Seigneur et pour son œuvre. Et il a reçu le baptême du Saint-Esprit le 24 octobre 1970. Ça, c'est sa vie spirituelle. Maintenant, sur le plan académique, il a obtenu une licence avec mention excellent, a reçu le prix d'excellence à Furabe College, qui est à l'université de Sierra Leone, en octobre 1969. Ses travaux de recherche en chimie organique l'ont conduit à l'obtention d'un doctorat, doctorat d'État, délivré par l'université Makerere de Kampala, en Ouganda. Et les travaux scientifiques publiés ont été récemment évalués à l'université Durham, en Grande-Bretagne, et sont considérés comme une recherche scientifique de très grande distinction. À cet effet, il lui a été décerné le grade de docteur, Doctor of Science, en octobre 2005. Alors, dans sa passion, la passion de connaître le Seigneur et d'amener des multitudes à Christ, il a écrit 150 livres pour la promotion de l'évangile de Christ. Mm-hmm. Et 4 millions d'exemplaires de ces livres sont en circulation et sont traduits en 11 langues. 16 millions d'exemplaires de traités évangéliques ont été à son actif et ces traités sont traduits en 17 langues. Alors, professeur Zacharia Tane Fomom considère la prière comme le travail le plus important qui puisse être fait sur terre pour Dieu et pour l'homme. Il était un homme de foi et croyait que Dieu exauce les prières. Il considérait également le jeûne comme l'une des armes majeures dans le combat spirituel chrétien. Et donc, quand vous suivez tout ce que nous venons de dire, vous avez une image de qui est ce bien-aimé frère et l'impact et l'influence qu'il a sur l'église qu'il avait fondée. Alors, donc, vous comprenez alors, en parlant de ce groupe à l'époque, de par les informations que nous avons glanées, c'est après une série de jeûnes et prières que le groupe recevait les chansons et les produisait. Voilà.
Il est camerounais, hein?
Bien sûr, oui. Bien sûr. Il est décédé, il est déjà décédé.
Il est décédé, ok.
Ouais.
Très bien. Alors, l'autre Laurent, sans plus tarder, nous allons aller à la phase commentaire de cette émission. Vous le savez très bien, auditeurs et auditrices de cette émission, nous faisons le choix d'un chant, d'une chanson ou d'un cantique. Nous le diffusons sur les antennes et après, on essaie de comprendre par la parole de Dieu ce qui est communiqué au travers de ce chant, le message biblique. C'est ça que nous, c'est ce que nous faisons dans cette émission. Et nous allons commencer. Et on va commencer avec le refrain. Avec le refrain. Donc, on va jouer le chant jusqu'au niveau du refrain. Et après, on va essayer de comprendre quel est le message qui est véhiculé par ce refrain. On y va avec le groupe CMCI, le groupe musical CMCI, au nom de Jésus-Christ. Comme annoncé tantôt, nous abordons le refrain. L'autre Laurent, je vais d'abord lire les paroles du refrain et je vais ensuite te poser la question pour que tu nous donnes des éclaircissements par rapport à ce qui est dit dans cette partie de la chanson. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. L'autre Laurent. Alors, les paroles du refrain montrent les deux événements ou deux événements qui se produisent ou arrivent lorsqu'on prononce le nom de Jésus. Donne-nous plus d'éclaircissements sur ces deux événements. D'abord, quels sont ces deux événements? Et ensuite, je veux avoir des éclaircissements sur ces deux événements. On y va.
Très bien. Avant de répondre à la question, je dois situer les auditeurs et les auditrices par rapport au test utilisé par les auteurs de la chanson.
Très bien.
Donc là, vous vous trouvez dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, un test qui révèle la prééminence de Christ, sa préexistence, aussi bien que l'œuvre qu'il a accomplie sur la terre. Donc vous avez la préexistence de celui qui, sur terre, est appelé Jésus, le Messie, Jésus-Christ, avant qu'il ne prenne un corps qui ne s'appelait pas Jésus. C'est la parole. C'est lui la parole.
Il s'appelait la parole avant
donc,
qu'il ne vienne.
Il est la parole. Non pas qu'il s'appelait, mais il est la parole.
Très bien.
Donc là, il est venu sur terre, donc il a pris le nom de Jésus. En d'autres termes, le nom Emmanuel aussi veut dire Dieu avec nous, puisque c'est Dieu qui est venu dans une chair, dans un corps humain. Alors, la partie du refrain Nous la retrouvons dans Philippiens chapitre 2, au verset, entre le verset 10 et le verset 11, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Très Alors bien. En évoluant, je vais expliquer un certain nombre de choses, mais pour l'heure, comprenons ceci, il est ici question du genou qui fléchit et de la langue qui confesse.
Les deux événements.
Voilà.
Les deux événements.
Le genou qui fléchit, ça c'est l'assujettissement, c'est le fait que l'ennemi ne tienne plus. D'accord? Ça c'est un. La confession, c'est le fait que cet ennemi soit forcé d'avouer, de concéder sa défaite.
Très bien.
Et là, pour avancer, comprenons ceci. Le nom de Jésus, de Jésus-Christ, ce n'est pas un mantra, ce n'est pas une formule magique à réciter un certain nombre de fois, parce que parfois vous allez entendre des gens qui, sous l'effet de l'émotion, qui vous disent de dire Jésus sept fois, tout ça là. Non, 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 non. Ça, c'est de l'enfantillage, ça. C'est pas biblique, cette façon de procéder. D'accord? Lorsque les agents, les forces de l'ordre viennent arrêter quelqu'un, qu'est-ce qu'ils disent souvent? Au nom de la loi, et ils vous expliquent pourquoi on va vous menotter, n'est-ce pas?
Exact.
Mais s'ils se tiennent là et disent au nom de la loi une fois, au nom de la loi deux fois, au nom de la loi trois fois,
et que les
jusqu'à sept fois, celui-même là qui fait l'objet de l'arrestation va dire, j'ai l'impression que ces gens ont besoin de visiter l'hôpital psychiatrique de Zébévi. Vous voyez un peu, non? Donc, au nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Il faut comprendre cela. Autre chose, ce nom est en soi explique l'autorité, la puissance qui est du ressort de Christ et de Christ seul. Voilà pourquoi, en ces temps de la fin, les faux Christ, c'est-à-dire les faux oints, les gens qui disent que Christ les a oints, parce qu'il a dit que les gens viendront pour dire qu'ils sont aussi Christ. Christ veut dire oint. Ils vont venir mentir dans le nom de Christ parce qu'ils savent qu'au nom de Jésus, les genoux fléchissent. Donc, il y aura un simulacre de manifestation que la Bible appelle des miracles mensongers qui vont se produire, mais quand vous vérifiez après, vous allez voir que ce n'est pas vrai. Je ne suis pas en train de dire qu'au nom de Jésus, il n'y a pas de miracle. Les miracles continueront de se manifester jusqu'à ce que Christ vienne prendre l'Église. Même après, quand le Dieu soit parti, les deux témoins qui vont rendre ministère à partir d'Israël, les 144 000 et tout ça là, la puissance de Dieu sera toujours manifeste. Je vais expliquer tout ça après. Alors donc, comprenons ceci en expliquant l'histoire autour de la personne du nom de Jésus. C'est que, en fait, c'est une autorité que Christ a conférée aux disciples. Il faut bien comprendre ça. C'est aux disciples que le Seigneur a conféré l'autorité en son nom. C'est à ceux qui sont nés de l'Esprit, aux véritables enfants de Dieu, que Christ a conféré l'autorité en son nom. Vous entendez souvent l'expression « en vertu des pouvoirs qui me sont conférés ». Ça veut dire ce que je veux dire, je ne le dis pas de moi-même, mais j'ai reçu autorité de le dire. Mais en tant que chrétien, nous ne disons pas ça au moment de chasser les démons. Nous ne disons pas ça au moment de prier. Je ne vais pas en priant dire maintenant, en vertu de l'autorité qui m'est conférée.
Ouais.
Non, non, on n'a pas le temps de faire toutes ces longues phrases-là. Mais quand je dis au nom de Jésus, c'est parce que je sais que Christ m'a investi de son autorité. Et n'oubliez pas que le royaume de Dieu fonctionne sur la base de la puissance et de l'autorité. La puissance pour s'avancer, l'autorité dans le gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement de Dieu, dans l'Église, fonctionne par cette même puissance et autorité. Alors, vous vous souvenez dans Jean chapitre 14, quand le Seigneur allait partir, il a dit à plusieurs reprises à ses disciples, « En mon nom, en mon nom, en mon nom, en mon nom. » Ça, c'est en ce moment qu'il était en train de leur dire, « Quand je ne serai plus là physiquement, tout ce que vous allez le faire maintenant, tout ce que vous allez le faire en mon nom. C'est l'autorité que je vous ai confiée. » Jean chapitre 14, verset 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Et il en fera de plus grande parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça veut dire, si nous prions au nom de Jésus que les miracles se produisent, celui qui reçoit la gloire, c'est le Père. Et c'est Jésus qui accomplit cette œuvre à travers le Saint-Esprit. Donc, à y voir de près, le disciple de Christ, le serviteur de Christ, la servante de Christ n'y est pour rien. Il n'est qu'un canal que Dieu utilise. Tant il avait dit aux 70 à leur retour qu'il était très content, oui, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il a dit non, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que lorsque nous donnons des instructions, lorsque nous commandons, les démons, eux, ils sont tenus d'obéir. Ce n'est pas à eux de nous confronter pour dire non, je ne vais pas obéir. Souvent, quand ça se passe, c'est parce que la personne qui énonce le nom de Christ même, ah, il y a des failles dans sa propre vie. Alors, quand on était nouvellement converti, on avait fait la délivrance, tout ça, là, donc, on a vu plein de cas où quelqu'un dit au nom de Jésus, sort le démon, lui dit non, je ne sors pas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça dans ta vie. Donc, si vous êtes impliqué dans ce type de ministère, la sainteté doit être votre style de vie. Si vous jouez avec le péché, vous allez regretter amèrement. Parce que le diable n'accepte pas qu'on lui redise à chaque fois, Jésus t'a vaincu à la croix. Jésus t'a vaincu à la croix. Quand il allait au séjour des morts, il t'a vaincu. Donc, quand nous commandons au nom de Jésus, c'est le souvenir là qui vient, et les démons fléchissent les genoux. Et ils confessent qu'ils ont échoué. Donc pour nous autres, disciples de Christ, nous confessons le nom de Christ parce que c'est lui qui nous a conféré cette autorité-là. Donc les genoux fléchissent et les langues confessent. Parce que ce que nous disons, vous savez qu'il y a un verset dans Proverbe qui dit, tu seras enlacé par les paroles de ta bouche. Ce que nous disons a de l'effet. Donc quand les démons fléchissent, quand les circonstances fléchissent, c'est pour entériner le fait que Jésus-Christ est effectivement le Seigneur, et il a autorité sur toute la création.
Très bien. L'autorance, je suis vraiment éclairé sur ce point-là. Et donc cette partie de Philippiens, chapitre 2, c'est en rapport avec les ennemis de Christ. Hein? C'est bien en rapport avec eux.
Oui, quand
J'avais cru que c'était pour nous les enfants de Dieu que cela a été prononcé.
Mais si, par exemple, en tant que disciple de Christ, le moment où j'accepte de devenir enfant de Dieu, le moment où j'accepte de suivre l'enseignement de Christ, je me soumets déjà à son autorité.
Exactement.
C'est une autorité conférée. Donc, dans la manifestation de l'autorité, le disciple lui-même est déjà soumis à Christ, premièrement.
C'est ça.
Parce que si vous ne vous soumettez pas à Christ, vous ne pouvez pas exercer son autorité. C'est pour cela que Jacques a dit, soumettez-vous à Dieu, ça c'est un. Résistez au diable, ça c'est deux. Le trois maintenant, il va fuir. Maintenant, si vous ne vous soumettez pas à l'autorité de Christ, et que vous voulez exercer l'autorité en son nom, il n'y aura rien du tout. D'accord? Donc, très souvent, les gens pensent que non, c'est juste pour dire Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Non, ça là, ça c'est notre vie, ça. Notre vie, en tant qu'esclave de Jésus, nous sommes déjà soumis à lui. Et nous confessons son nom en proclamant ce qu'il a fait pour nous. Maintenant, en face de la création. Parce que quand Adam est tombé, il a légué au monde, il a légué au diable la gérance ou la gestion ou la régence du monde. C'est pour cela que Jésus, quand il était au coup de la tentation, le diable dit, cette puissance-là m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et jusqu'à ce jour, des gens qui sont friands de pouvoir et autres là, vont auprès des puissants des ténèbres pour aller prendre ces choses et vouloir tromper les gens. Alors que les véritables enfants de Dieu, quand ils marchent et se soumettent à Christ, quand ils prient au nom de Jésus, c'est tout à fait normal que les situations soient débloquées.
Très bien. Nous allons continuer dans cette lancée et on va réécouter le chant jusque là. Maintenant, on va atteindre le premier couplet pour faire le commentaire avec l'autre Laurent. Je vous laisse écouter la chanson au nom de Jésus-Christ jusqu'au premier couplet.
Toute la forêt
Jésus, c'est Dieu le Fils, mais il s'est dépouillé. En devenant esclave, Dieu est devenu homme. En devenant esclave, Dieu est devenu homme. Jésus s'est humilié. En tout point, il a obéi jusqu'à subir la mort. Oui, la mort de la croix. Les paroles du premier couplet nous présentent assez de contrastes. J'énumère en passant deux d'entre eux. Jésus, c'est Dieu le Fils, mais il s'est dépouillé. Ça, c'est le premier contraste que j'énumère. Et le second, et en devenant esclave, Dieu est devenu homme. Que faut-il comprendre de ces contrastes dans l'autre Laurent?
Bien, avant d'aller jusqu'à la réponse à cette question, oui. N'oubliez pas que l'épître aux Philippiens est l'œuvre de l'apôtre Paul.
Exactement.
Et
oui.
Paul était un pharisien.
Ok, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise la loi.
Il maîtrisait la loi. Et un juif.
Un juif de support.
Ou un juif de confesser la divinité de Christ.
Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné.
Ce n'est qu'après sa conversion qu'il a compris que Yeshua, comme on l'appelle, ou Yeshua, comme certains le disent, que ce n'est pas juste un homme, mais c'est Dieu.
Okay.
C'est pour cela qu'il a confessé lui-même plus tard qu'il était un blasphémateur, que lui, Saul de Tarse, était un blasphémateur.
Très bien.
Parce qu'il a compris après. Pourquoi? Ce n'est qu'après révélation que l'on sait qui Jésus est. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible, hein. Vous pouvez lire intellectuellement, vous comprenez tout ça, mais quand l'Écriture dit que Jésus-Christ est Seigneur, c'est juste une phrase pour vous. Mais la connaissance spirituelle n'est pas une connaissance apprise. Elle est révélée. D'accord? L'intelligence spirituelle la relève du domaine de la foi. C'est pas révélation. Quand vous avez ça, vous savez sans l'ombre d'un doute que ce qui est dit là ne peut souffrir d'aucune fluctuation en quel temps que ce soit. Donc, vous comprenez ça? Un pharisien, un juif, devenu apôtre de Christ, qui confesse ici la préexistence de celui que la Bible appelle dans le Nouveau Testament Jésus, le Christ, loin. Alors, donc là, pourquoi le texte que nous allons aborder maintenant, là, nous permet, nous irons dans Philippiens, toujours, chapitre 2, je vais lire à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient les sentiments? Lequel existant en forme de Dieu, ça c'est sa préexistence, ça. Avant qu'il ne vienne sur la terre, c'est la parole. C'est par lui que tout a été créé. Mais quand il est venu, il s'est restreint lui-même. Il a choisi de se restreindre, de restreindre la manifestation de qui il est. Alors, donc, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Existant en forme de Dieu, il ne veut pas être égal à Dieu. Où? Et quand? Sur la terre. Quand il a pris un corps humain. Hein? Tu n'as point agréé les holocaustes, tu m'as formé un corps.
Ça, c'est l'humilité, hein?
Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour cela qu'il a introduit en disant, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Donc, il nous parle.
Paul parle de l'humilité de Christ qui s'est dépouillé lui-même. Là, le texte dit maintenant, il s'est dépouillé lui-même. C'est nous-mêmes qui pratiquons l'humilité. L'humilité n'est pas dans la voix. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle lentement. Et à peine de façon correcte, on dit, ah, il est ça c'est son tempérament. Ce n'est pas parce que Pierre, quand vous verrez plus tard Pierre, l'apôtre, tout cela, qu'il est bouillant, qu'il n'est pas humble, non. Parce que quand Paul l'avait repris, publiquement, après, j'ai expliqué dans l'autre émission, quand il a écrit son épître, et quand il voulait parler de Paul, il n'a rien dit de désobligeant à l'endroit de Paul. Ça, c'est l'humilité, ça. Il n'a pas dit non.
On était là avant toi.
Tu as une fois marché sur la mer. Moi, là, j'ai marché sur la mer.
Exactement.
Mais il n'a rien dit comme cela. Donc, là, il introduit en disant, ayons ces sentiments-là. Et il poursuit en disant, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Dans le texte original, c'est une forme d'esclave. Esclave de qui? Esclave de Dieu. Mais serviteur des hommes, que ce soit clair. Il n'était pas esclave.
Mais à tout point, esclave de Dieu, serviteur des hommes, ça, à tout point, c'est l'humilité. Hein?
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, en devenant semblable aux hommes, donc quand il est apparu, quand tu le vois, il n'y a rien, il n'y a pas un halo là autour de sa tête, comme on le montre dans les images, là, vous avez un truc rond, lumineux autour de sa tête, qui fait que quand vous le voyez, la façon dont il brille là, ça... Non, il paraît, c'est un juif comme n'importe quel juif. C'est pour cela que c'est par révélation que les gens ont su qui il était. Quand Pierre a pu dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il lui a dit en même temps, ce que tu viens de dire là, ça ne vient pas d'une connaissance mental, intellectuel. C'est pas révélation. Si vous n'avez pas de révélation sur la personne de Christ, vous allez dire, vous allez faire des choses au nom de Christ. Le jour où cette lumière vous sera accordée, vous-même là, vous voudrez même ramasser tout ce que vous avez dit sur lui, dire, maintenant là, je comprends. Donc ici, et il dit, ayant paru comme un simple homme, un juif lambda, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quand Paul dit même jusqu'à la mort de la croix, j'en parlerai un peu plus loin, pour qu'on comprenne jusqu'où Christ s'est humilié. Parce que là, il y a peut-être un jeu de mots. D'un côté, l'humilité de Christ, ensuite l'humiliation de Christ. L'humilité de Christ, c'est ce qu'il a choisi de faire. Et la conséquence, c'est qu'il a été humilié. Non, là, maintenant, dans le domaine de l'humiliation, parce qu'il s'est humilié. D'accord?
Ouais, donc c'est là, clair. C'est clair.
De par ce que tu as dit, tu as parlé de contraste, il s'est humilié. Oui. Voilà. Donc, donc là, ici, pourquoi il y a ce contraste? C'est le fait que c'est un choix délibéré que Christ a fait de ne pas manifester publiquement qui il est. C'est la raison pour laquelle même sa mère et ses frères et autres, là, à un moment donné, on pensait qu'il était hors de sens. C'est-à-dire qu'il avait des problèmes. D'accord? Et il enseignait quelque part, et puis ils ont voulu le prendre. Vous dites, bon, viens à la maison, hein, grand frère. On a comme l'impression qu'il y a des choses qui... et là, en même temps, il a parlé.
Qui sont mes frères?
Et qui est ma mère? Vous allez voir que là, il n'a pas dit qui est mon père. Parce qu'il connaissait son père. Donc, les paroles de Christ, là, il n'y a rien qu'il dit, et que vous pouvez dire, oh, il n'aurait pas dû dire ça. Il savait ce qu'il disait. Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Ouais. Donc, quand aujourd'hui, les gens élèvent sa mère à un poste, à une position que la Bible ne lui a pas attribuée, vous comprenez en même temps que ça, c'est pas l'Esprit de Christ.
Ouais.
C'est pas le Saint-Esprit qui inspire de telles affirmations. Donc, là, il s'est dépouillé. Ça veut dire que la forme extérieure de la manifestation n'était pas là. Mais Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu. C'est pour cela qu'il est difficile de concevoir que quelqu'un soit à la fois Dieu et homme. Très difficile. Et voire même impossible. Comment Dieu peut être fatigué? Comment Dieu peut avoir faim? Ça, c'est l'aspect humain, ça, de son être. Ça. Donc, d'accord? Donc, là, ici... j'ai déjà dit qu'il s'est fait esclave de Dieu, serviteur des hommes. Hein. Il en est de même pour nous aussi, qui sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes esclaves de nos frères et sœurs dans la foi. Mais nous ne sommes pas esclaves du monde. No way. Ça là, c'est pas correct. Il faut que ce soit clair. Alors, si quelqu'un est chez lui à la maison en train de siroter son vin, il dit, ah, tu sais, et homme de Dieu, et servante de Dieu, j'ai mal aux pieds, j'ai appris que quand il prie pour les gens, ceci, il te tend son pied tout en sirotant son vin, et il dit, qu'il prie dessus, et tu te gesticules, tu pries, quand tu finis, il dit, ok, et donc pour la route, hein, pour l'essence, on te donne de l'argent. Tu nous as honnis en allant faire ça, là. D'accord? La puissance de Christ, là, n'est pas de chocolat qu'il faut aller distribuer aux gens. Nous prêchons l'évangile du royaume. Si quelqu'un accepte, si son cas nécessite qu'on prie pour lui, on prie pour lui. Mais si quelqu'un est gonflé, il veut même pas se soumettre. On va pas perdre le temps. Le Seigneur vient très bientôt. On va pas perdre le temps dans les inutilités. Donc, dans 1 Timothée chapitre 3, il a dit ceci. Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Savoir que Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru au monde et élevé dans la gloire. De qui parle-t-on ici? On parle de Christ. Dieu a été manifesté dans la chair. C'est Christ, ça. Et vous vous souvenez qu'il a dit aux deux frères, Jean et Jacques, là, qu'il a eu coupe à boire. Et cette coupe-là, là, il faut étudier l'épître de Pierre pour comprendre. Pierre disait que l'esprit de Christ qui était dans les prophètes révélait à l'avance les souffrances de Christ et la gloire qui suivra l'humiliation de Christ, n'est-ce pas? Donc la révélation maintenant va devenir une réalité. C'est pour cela que dans Matthieu 26, dans Marc aussi, je crois que Luc, quand ils sont arrivés dans le jardin de Gethsémané, à un moment donné, il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ça, c'est l'aspect humain, ça, de sa personne, ça. D'accord? Et là, il voit la coupe qu'il doit boire, c'est quoi? C'est l'humiliation. Tout ce qui va endurer entre son arrestation jusqu'à ce qu'il expire à la croix, il a vu l'humiliation. Et il a dit à son père, bon, si c'est ta volonté que je boive cette coupe-là, que ta volonté soit faite. Oui. Vous voyez un peu, quand vous méditez sur ces choses, et vous voyez le prix qu'il a payé, par moment vous allez vous demander, est-ce que ce ne sera pas osé de la part même d'un enfant de Dieu de se permettre des légèretés au nom de Christ, de faire certaines choses qui amènent le discrédit sur le nom de Christ. Vous voyez un peu. Donc là, c'est le prix qu'il a payé. Il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même. Il a pris la décision de s'humilier, et dans son humilité, les hommes lui ont infligé l'humiliation. Donc, comprenons la chose comme cela.
Très bien. Mm-hmm. Juste après ces contrastes-là, il est dit, dans le premier couplet, il est dit que Jésus s'est humilié et a subi la mort. Et il dit, oui, la mort de la croix. Pourquoi cette précision?
Oui, la précision, comme je l'ai dit tantôt, la dans Philippiens chapitre 2, là, il est dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même,
oui.
C'est ce même-là que les auteurs ont rendu par oui.
Oui, oui. Pourquoi ça? Pourquoi,
oui, parce
pourquoi
que
cette précision?
La mort par crucifixion,
oui,
est une mort avilissante.
Ok.
C'est une mort déshumanisante et ignominieuse. Mm-hmm. C'est-à-dire, on t'afflige. On t'inflige un châtiment qui t'afflige jusque dans ta personne.
Okay.
Et c'est ce qui fait que quand le crucifié descend sur la croix, quand on le descend, on ne lui donne pas un sépulcre.
Ah.
On le jette sur la décharge publique, non loin de Jérusalem, qu'on appelle Gehinnom. C'est à ce niveau-là que les témoins de Jéhovah disent que l'enfer n'existe pas parce qu'on parle de Gehinnom. Jésus a fait une comparaison pour expliquer des réalités spirituelles en s'appuyant sur des réalités physiques. C'est tout.
Tout simplement.
Tu comprends? Donc, quand il a vu ça, le salut de l'humanité va me coûter ça. On te met nu. Tu n'as rien. Rien du tout. On t'avilie. Et les gens te maudissent. On dit des choses sur toi. Et votre famille, pour tout le reste là, c'est de la maison du crucifié, ça. Donc, c'est-à-dire que c'est une honte perpétuelle qui a sur votre maison. Mmh. Vous voyez un peu. Donc, ici, dans son humilité, Christ a accepté l'humiliation d'une mort avilissante, déshumanisante et ignominieuse pour satisfaire la justice de Dieu. Parce que la chute d'Adam a amené un désordre dans la création. Mmh. Et la justice de Dieu, sur la base de sa nature, la sainteté de Dieu, exigeait un châtiment à la hauteur du crime commis. Et donc, Christ a dû aller jusque-là, dans l'abaissement, pour que Dieu, maintenant, à partir de ce moment, aura toutes les raisons de pouvoir justifier tout pécheur qui se répand. D'accord? Et ça, cette mort-là, ce qui lui est arrivé, nous a apporté, entre autres choses, la réconciliation avec Dieu. Ça, c'est un, deux. Et puis la vie, réconciliation avec Dieu, parce que il est dit dans Romains, hein, Romains chapitre 5, verset 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons maintenant obtenu la réconciliation. Donc, on sait, la réconciliation entre Dieu et nous, Dieu maintenant, il s'est apaisé. Pour tous ceux qui se convertissent, quand Dieu nous voit, il ne nous voit plus avec cette colère-là de dire, voilà, c'est des gens qui veulent toujours me mettre en colère comme les enfants d'Israël le faisaient. Maintenant, autre chose, il a mis en évidence la vie, l'immortalité. 2 Timothée chapitre 1, verset 8. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Et nous a adressé une sainte vocation, un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc quand nous prêchons l'évangile là, nous amenons les gens à se réconcilier avec Dieu pour qu'ils puissent maintenant obtenir la vie et l'immortalité. Si notre évangile dit autre chose par rapport à ça là, on est dans le faux, on n'est pas vrai. Donc, essayez de réfléchir à ça. Lorsque vous rejetez l'évangile, vous faites un affront à Dieu. Lorsque quelqu'un dit, après avoir reçu Christ, vit dans l'hypocrisie, tout en ayant le nom de Jésus sur les lèvres, il fait un affront à Dieu. Quand quelqu'un veut se servir de l'évangile de Christ pour obtenir des avantages et des gains sordides, c'est qu'il a oublié le prix que Christ a payé. Et autre chose, c'est que cette personne oublie qu'il y a Matthieu 7, verset 21, qui va l'attendre dans l'éternité, où il verra le royaume et n'entrera pas.
Très bien. Nous poursuivons dans l'émission avec le second couplet. Là, on écoute la chanson jusqu'au second couplet et on va passer aux commentaires de cette partie de la chanson. Au nom de Jésus-Christ. L'autre Laurent, ce qui est dit dans le second couplet ou dans le deuxième couplet est la conséquence directe de la fin du premier couplet, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pour cela qu'il y a le connecteur logique.
Oui.
C'est pourquoi.
Ok. Que Dieu le Père, là aussi élevé, à la plus haute place, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est ça? Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille, c'est ça? Dans les cieux et sur la terre.
Oui, mais voilà, il y a un élément qui saute là-bas, parce que personne n'a reçu de Dieu l'autorité de soustraire un iota de la parole, ni d'en ajouter.
Oui.
Ah, parce que dans le texte, Philippiens chapitre 2, il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux.
Oui.
C'est un, sur la terre.
Oui.
Ça, c'est deux,
et sous la terre.
Or, dans le texte du cantique, sous la terre
n'est pas mentionné.
D'accord?
D'accord.
Parce que ce sont là les trois sphères d'influence.
Ok.
Y a plein de choses que je pourrais dire là, mais le temps est contre nous. Les trois sphères d'influence. Ça, et tout ceci est en lien avec la création. Christ a autorité. Il a l'autorité suprême sur toute la création. Que ce soit l'humanité ou les anges déchus. Parce qu'on a d'abord d'un côté l'humanité, la race humaine, on a les anges de Dieu, et on a les anges déchus, que nous appelons les démons. Christ a autorité, parce que tout cela relève de la création. Les anges ont été créés, l'homme a été créé, les démons se sont eux-mêmes mis dans la situation où ils se trouvent. Donc Christ a autorité, il a l'autorité suprême sur toute la création, Et donc, c'est pour cela que le texte va dire que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Là, il faut retourner au grec, il faut avoir fait des études en grec pour comprendre. Hokurios, utilisé ici, Seigneur, là, c'est en lien avec sa divinité. Et c'est ce qui avait valu la persécution des premiers chrétiens. Pourquoi? Parce que, à l'époque, on voulait qu'ils disent que César est Seigneur. Alors, quand on dit César est Seigneur, ça veut dire que César est divin. Et ils disent non, pas question. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Et c'est ça qui a valu la persécution, les amener dans l'arène, on les tuait, tout ça. Donc, c'est important de comprendre le texte dans son contexte. Alors, j'ai dû expliquer que le fait qu'il soit le Seigneur, c'est en lien avec sa divinité, bien entendu. Nous exerçons l'autorité qu'il nous a conférée. Et la puissance de Dieu se manifeste selon la souveraineté de l'Esprit de Dieu. C'est pas nous qui activons. C'est pas nous. Parce qu'il y a plein d'enseignements aujourd'hui qui pilulent sur l'internet là, comme si c'est vous qui faites quelque chose. Non. Nous nous mettons à disposition et le Seigneur se sert de nous. Lorsque nous parlons, lorsque nous prions, l'Esprit de Dieu confirme quoi? Il confirme que Jésus est non seulement ressuscité, mais également qu'il est l'unique médiateur, mais aussi qu'il est l'unique sauveur, qu'il est l'unique Seigneur. Pourquoi? C'est parce qu'il est ressuscité qu'il fait en nous et à travers nous ce qu'il faisait quand il était encore en vie. Et le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est quand nous prêchons l'Évangile, de confirmer que Jésus-Christ est effectivement ressuscité. Et les apôtres ont bien compris cela. Quand vous lisez le livre des apôtres, vous allez voir qu'ils ne disaient autre chose que tout ce qui est en lien avec Jésus-Christ. Vous vous souvenez que quand ils ont été persécutés, frappés, Actes chapitre 4 et autres là, quand ils ont fait leur prière, vous allez voir, ils ont dit, verset 29, Actes 4, et maintenant Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Ils n'ont rien dit par rapport à la persécution. D'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Tu vois, Jésus est au cœur de tout ce qu'il faisait. Aucun des apôtres n'a dit, tous ceux qui n'ont pas compris que nous sommes des apôtres puissamment, où est là? Dieu, il faut les frapper. Aucune prière n'a été faite dans ce sens. Nous, qu'on dise que non, que les membres du Sanhédrin meurent. Non, aucune prière n'a été faite dans ce sens. Que ceux qui nous ont menacés tombent malades et ne soient guéris que quand nous viendrons prier pour eux. Non, rien n'a été dit comme ça. Que ceux qui nous ont frappés soient paralysés. Non, rien n'a été dit comme ça. Mettez la parole de Dieu à côté de ce que vous clamez, réclamez, dites, faites dire aux gens. Et vous allez voir que vous êtes dans le faux. Parce que la parole est la référence par excellence. Les apôtres là, ils ont élevé Christ. Même quand ils ont été frappés, ils ont élevé Christ. Parce que c'est lui qui a dit, quand vous m'aurez élevé, j'attirerai les hommes vers moi. C'est pour cela que plus tard, vous allez voir que certains pharisiens, certains membres du Sanhédrin ont commencé par croire en Christ. Si on avait tué tous ces gens-là par la prière, qui va croire?
Très bien. Merci l'autre Laurent. On va maintenant aborder la dernière phase, mais bien avant d'arriver, là, nous allons écouter encore le chant jusqu'au troisième couplet et on va finir avec cette partie de l'émission.
Oh,
Au nom de Jésus-Christ, nous brisons les barrières. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons les frontières d'abord, nous brisons les barrières par la suite. Au nom de Jésus-Christ, renversons toute pensée. Au nom de Jésus-Christ, apportons également le salut. L'autre Laurent, là, je veux des éclaircissements de façon rapide, là, parce que on est un peu talonné par le temps. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons les barrières, nous brisons les frontières. Qu'est-ce que cela signifie?
Bien, vous devez comprendre qu'il y a diverses sortes de frontières, de barrières. Il y a des barrières.
Tu veux jumeler les deux? Tu veux jumeler les deux, frontières, barrières? Ou oui. Bien, d'accord, vas-y. D'accord. Ok, nous brisons
les frontières, c'est les barrières. De définition oui. D'un territoire donné. D'accord.
D'accord, oui.
Et les barrières peuvent être naturelles. Très souvent, quand on veut avancer, vous avez une montagne, c'est une barrière, différentes formes de barrières. Mais ce sur quoi je veux mettre l'accent ici, oui. C'est les barrières intangibles, c'est-à-dire les barrières spirituelles. Nous connaissons les barrières physiques.
Les barrières physiques.
D'accord?
D'accord.
Il y a la baie vitrée qui m'empêche maintenant, là où je suis, de marcher et de venir vers toi.
Exactement.
Ça, c'est une barrière.
Oui.
Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe des barrières intangibles, comme je l'ai déjà dit, et qui relèvent de la réalité du monde spirituel. Et dont l'influence est sans commune mesure sur ce qui est physique. Je te donne juste un exemple. Quand par exemple Daniel était là et que l'ange est venu vers lui, il lui a dit quoi? Le chef du royaume de Perse m'a résisté. C'est un ange qui parle. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Alors qu'en ce moment précis, Cyrus était le roi de Perse. Cyrus n'a rien fait à cet ange. Cyrus était un être humain. Mais dans le monde de l'esprit, le même royaume de Perse-là a une entité qui gouverne. Il faut comprendre ces réalités-là. D'accord? Et il dit, le roi du royaume de Perse m'a résisté. Donc ça, c'est dans le domaine de l'esprit, ça. Donc, de la même façon, quand les enfants d'Israël étaient pour combattre à Jéricho, par exemple, le combat était d'abord spirituel avant d'être physique. Quand l'esprit de Dieu leur a dit, faites le tour, sept fois pendant sept jours, tout ça là... Pour eux, c'est tout à fait nouveau. Moïse ne nous a jamais dit de faire des choses comme ça. Mais ils ont obéi. Et le résultat, c'est que même aujourd'hui, là, quand on a fait les fouilles archéologiques sur le site, on s'est rendu compte que les murailles de Jéricho s'étaient affaissées. En français, nous disons renversées. C'est pas renversé. Ça s'est affaissé. Ça veut dire qu'une puissance a agi depuis le ciel sur les murailles. Et donc, ils se sont enfoncés dans le sol. Vous voyez un peu, donc, ça c'est pour cela d'abord qu'avant qu'il ne puisse attaquer, l'ange de l'Éternel est apparu avec son épée à la main. Pourquoi? Parce que le combat est spirituel. En ce temps-là, tous les villages, toutes les villes, les cités avaient des garanties. Vous croyez que autour de votre village, là, la porte est comme ça, on rentre, on sort? Non. Il y a des gens qui disent que dans leur coin, là, qu'il y a un portail. Dans chaque domaine, dans le monde de l'esprit, il y a un portail. C'est pour cela que quand les gens veulent construire leur maison, ils enfouissent des choses dans le sol. Pourquoi? Pour déterminer le périmètre de leur habitation. Il y a toujours un portail dans le monde spirituel. Et quand on veut prêcher l'évangile, si vous ne brisez pas le portail qui est là, dans le monde spirituel de la localité, vous ne pourrez pas prêcher l'évangile. C'est pour cela que j'ai dit que le royaume de Dieu avance par puissance et est gouverné par autorité. Donc par la puissance, on désarme d'abord les puissances des ténèbres, et maintenant l'évangile est prêché, et quand l'église est établie, c'est sous l'autorité de Christ. Donc ce qui sont en train de dire, nous brisons les barrières, nous brisons les frontières et autres, nous brisons les pensées, la guerre là, ça se passe dans la pensée de l'homme. C'est pour cela que Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Pourquoi? Les armes que nous utilisons ne sont pas des armes physiques. Mais c'est des armes spirituelles. Et ces armes-là appartiennent à Dieu. C'est les armes de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses sont où? Dans la pensée de l'individu qui refuse de céder devant la souveraineté de Christ. Donc, nous prions en amont, on désarme ce qui a fait de l'individu ce qu'il est. Quand il est atteint maintenant, quand vous lui présentez l'évangile, il vous dira, ça fait des années, personne ne m'a jamais dit ça. Pourquoi? Parce que tu as fait le travail en amont.
Okay.
Et quand maintenant, les démons le lâchent maintenant, ils croient en Christ. Il naît de nouveau, il entre dans le royaume. Donc vous voyez, la vie là, ne s'arrête pas à ce que nos yeux physiques voient.
Très bien.
Ce que nous ne voyons pas là, c'est ça qui gouverne ce que nous voyons. Donc c'est important de comprendre ces choses. Donc, au nom de Jésus, les genoux fléchissent. Dans les trois domaines là, les trois sphères.
Les cieux.
La terre. Et sous la terre.
Sous la terre.
Ça, c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre ça. Et que Christ à l'autorité suprême. C'est cette autorité qui nous a été conférée afin que nous puissions parler en son nom, prêcher en son nom, et faire des louanges et tout ce que nous voulons en son nom. C'est sur la base de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix qu'il a acquis cette autorité en devenant Seigneur de toute la création.
Merci l'autre Laurent. Bien-aimé, sur ces derniers commentaires qui revêtent l'allure de conseils et de directives, c'est sur ces derniers commentaires que nous mettons fin à l'émission de ce jour. Que Dieu vous bénisse, au revoir et à dimanche prochain. Et nous vous laissons avec la chanson « Au nom de Jésus-Christ » du groupe musical CMCI.